questions, etc., et donc on peut homogénéiser. Mais cette homogénéisation n'existe pas avant la monétisation, elle existe après. Alors pourquoi est-ce que je dis tout ça? Eh bien c'est parce que justement, quand on passe au capital cognitif, pour aller vite, quand on voit les quand on passe du fordisme, mettons, au post-fordisme, eh bien cette fiction qui renvoie au paradigme de la mécanique classique, bon, ça a été bien analysé au début du XIXe siècle, on ne peut pas demander quand même à Marx d'avoir anticipé sur les progrès de la physique au XXe siècle. Donc la physique de l'époque, l'énergie de l'époque, ça a été bien analysé par un certain nombre d'économistes, ça renvoyait à la mécanique classique dans laquelle un travail, une énergie, ben, c'est le produit scalaire d'une force par un déplacement, et le déplacement, c'est une grandeur continue, et le temps est une grandeur continue. Donc tout ça, on est très en homogénéité avec les paradigmes kantiens de la mécanique humaine, dans lequel l'espace est une grandeur homogène, isotrope, continue, et le temps est une grandeur homogène, continue, indéfiniment divisible, etc. Mais très bien que maintenant, ça ne marche plus. Donc, je renvoie, mettons, aux travaux de Pierre Vels, là, sur les transformations du travail industriel. On voit très bien que, en réalité, le travail concret ne correspond pas du tout à cette fiction du travail, de la mécanique du début du XIXe siècle. Alors, entre économistes, parfois, ce que je trouve, c'est que chez les lecteurs de Marx, en rester à la mécanique qui était la sienne, alors, il ne pouvait pas lui demander d'anticiper la mécanique quantique, malgré son génie et tout ça, c'est quand même un peu anachronique. Donc, je veux dire, on ne peut plus lire maintenant le travail humain de notre époque avec les catégories de la physique de la fin du XVIIIe siècle. Donc, du coup, la conclusion que j'en tire pour ces rémunérations du travail, pour le contrôle, etc., eh bien, c'est qu'en réalité, on voit très bien que, justement, la chronologie de l'activité, de l'opération de la multitude, c'est quelque chose qui est fondamentalement discontinu, discret, etc. Et donc c'est plus en accord avec les avancées humbles des mathématiques de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, qu'avec cette espèce de triomphalisme kantien ou positiviste de la mécanique du début du... Alors, j'en termine cette première partie. Et donc on voit très bien que, il y a 20 ans, donc quand on s'occupait du RMI, on pensait naïvement que le dépassement de l'état-providence allait se faire vers le haut. Et donc on allait passer, au lieu d'assister à la régression à laquelle on assiste aujourd'hui, du passage des droits de deuxième génération aux droits de première génération, qu'on allait passer des droits de deuxième génération, des droits créances, à revenir aux idéaux, au fond, des solidaristes de la fin du XIXe siècle, et donc on allait passer à un revenu social d'existence qui n'allait pas être, alors c'est là où dans la discussion idéologique d'il y a 20 ans, qui n'allait pas être l'impôt négatif de Friedman, parce que dans la conception des solidaristes, quand on l'oppose à celle de Friedman, donc moyennant un anachronisme évidemment de presque un siècle, chez les solidaristes, le revenu social d'existence, il était substantiel, c'est-à-dire qu'il fallait pouvoir vivre qu'avec lui, universel et inconditionnel. Donc on était inconditionnel, on est aux antipodes de la notion contractuelle du salariat. Universel, on est là aussi aux antipodes d'une conception contractualiste qui n'engage que des individus, puisque si j'ai universel, ça devient une mesure de droit, de, comment on dit déjà, de public, non pas une mesure privée. Et substantiel, eh bien, ça c'est évidemment c'est aux antipodes du fait que le chômage puisse être volontaire. Donc on voit, alors, le fondement du revenu social d'existence, donc il y a eu déjà un certain nombre de discussions, une première fois il y a 20 ans, au moment de la naissance du RMI, puis une deuxième fois il y a une dizaine d'années, et à mon avis, les fondements les plus sérieux ne sont pas d'ordre économique, mais d'ordre moraux et politique. Bon, là je m'abriterai derrière l'auteur des deux auteurs que je préfère, d'une part Castel, et peut-être un auteur moins connu, Jean-Marc Ferry, qui, lui, au nom de droit, alors lui il a né à, en toute ironie affectueuse vis-à-vis de lui, il est né au droit de la quatrième génération. Enfin, bon. Et alors, il pose justement, en réalité, le droit au revenu social, potentiel, universel et inconditionnel comme étant lié, en fait, à un impératif moral catégorique, en disant, en tant qu'être humain, et un être humain, donc il retrouve les intuitions des solidaristes, un être humain doit, une fois qu'il est né, doit de la société les moyens de perpétuer sa vie. Alors j'en passe à la deuxième partie, je vais essayer d'être plus rapide peut-être. Et donc la deuxième partie, ça correspond à une deuxième expérience professionnelle, donc lorsque j'ai découvert que le commun incluait la nature, donc l'écologie. Alors, à ce moment-là, parce que le solidarisme de la fin du XIXe siècle est relativement myope dans le temps, l'horizon temporel est très court, puisque au fond, c'est les enfants, les vieillards, les retraites, les allocations familiales, bon, puis la maladie, évidemment. Donc, la solidarité intergénérationnelle se limite à des jeunes vivant en même temps sur le même sol national. En gros, c'est relativement limité. Quand on pose les problèmes d'écologie, alors on change d'échelle temporelle, parce que tout de suite, c'est de l'ordre de la décennie, de plusieurs décennies, de siècles, voire de millénaires, dans le cas des déchets nucléaires, ou du climat. Et donc, à ce moment-là, on s'aperçoit tout de suite que cela fait exploser les possibilités, les limites du calcul économique classique. Bon, ça, c'est les limites classiques des problèmes du taux d'actualisation. C'est-à-dire qu'un taux d'actualisation, dès qu'il est un peu positif, si vous avez des horizons temporels très très loin, ben vous apercevez que ça fait tendre vers zéro, quelque valeur que ce soit, donc l'intérêt des générations futures va très rapidement ne plus compter du tout pour des choix faits par les générations présentes et qui engagent éventuellement le sort des générations futures. Alors, la crise néanmoins du solidarisme vient du fait qu'il y a un problème d'équilibre financier qu'on a vécu en France avec les discussions autour des retraites. C'est que, à la fin du XIXe siècle, les conditions démographiques et sociales étaient telles que la solidarité, même limitée aux deux générations avant et après, était relativement limitée parce que l'espérance de vie était très courte. Donc quand les gens réussissaient à arriver à la retraite, en gros, ils n'avaient plus beaucoup d'années à vivre, donc la charge financière n'était pas extrêmement élevée. D'autre part, il y avait une mortalité infantile effroyable, ce qui fait que avant que vous puissiez amener des enfants à l'âge de travailler, eh bien, la plupart d'entre eux avaient disparu, donc ça diminuait d'autant, là aussi, cyniquement, la charge et donc l'équilibre financier d'une protection sociale éventuelle. Alors, en plus, le problème, si théoriquement a été posé à la fin du XIXe siècle, je vous rappelle quand même qu'en France, un système cohérent de protection sociale ne s'est mis en place qu'en 1945, donc même en 1945, l'espérance de vie après 65 ans était relativement faible, et la mortalité infantile, même à cette époque-là, était relativement élevée. Donc ce qui s'est passé néanmoins, c'est que très rapidement, ça on l'a vu depuis une vingtaine d'années en France, le problème de l'équilibre financier s'est posé. Bon. Alors, d'autre côté, du côté écologique, on voyait très bien qu'il y avait un problème entre l'horizon temporel et les charges qu'on était prêt à consentir. Donc ça, c'est tout le problème que les économistes appellent les externalités négatives. Et donc là, il se pose la prise en charge de ce qu'on appelle en économie les biens publics, et ça renvoie à deux problèmes. Un problème économique, d'une part, donc c'est la définition économique du public par opposition au commun, et une définition juridique de la propriété, de savoir qui est propriétaire responsable du bien public. Alors un bien public en économie, là, peut-être que j'enfonce à nouveau des portes ouvertes, Ça se définit par deux caractéristiques, ce qu'on appelle la rivalité par rapport au processus de consommation, au processus de production, la rivalité et l'excludabilité. Alors l'excludabilité, c'est un néologisme. La rivalité, cela veut dire que quand vous consommez un produit, ben, si c'est vous qui le consommez, ça ne peut pas être votre voisin pour une marchandise ordinaire. Par contre, l'excludabilité, ça veut dire que vous pouvez éventuellement empêcher quelqu'un de consommer un produit, donc de lui faire payer un droit de péage ou une chose comme ça. Alors, l'exemple classique du bien public, c'est le phare qui éclaire les marins en mer. Donc, le phare, eh bien, vous voyez très bien qu'il n'y a pas rivalité, c'est-à-dire que si le temps le permet, eh bien, si votre bateau voit le phare, le bateau à côté voit également le phare, donc le fait que vous le voyez n'empêche pas votre voisin de consommer le service rendu par le phare. Il n'y a pas d'excludabilité parce que, là, il y avait Basquiat, au début du 19e siècle, qui avait imaginé de faire un impôt... d'interdire aux gens d'avoir des fenêtres et comme ça de pouvoir les obliger à acheter des chandelles. Donc, ça voulait dire qu'on pouvait exclure les gens de la vision du soleil. Bon, alors les phares, c'est pareil, vous ne pouvez pas normalement empêcher de voir les phares. Alors, ça c'est du côté économique, donc c'est bien public. Alors, suivant qu'une des deux caractéristiques est observée ou pas, vous avez les marchandises individualisées ordinaires, les boîtes de petits pois. Donc ils sont pointés non excludabilité. Puis vous avez ensuite les biens publics purs, les phares, et puis vous avez ensuite les biens de club. Alors les biens de club, c'est par exemple les chaînes cryptées, c'est-à-dire il faut que vous payiez l'appareil de décryptage pour que vous puissiez avoir accès à ces biens de club. Et inversement, vous avez des biens communs que vous consommez ensemble, c'est-à-dire que votre consommation ne pénalise pas le voisin, mais en même temps, il ne peut pas y avoir exclusion de la consommation. Alors, dans le régime de propriété, ça renvoie évidemment à des catégories latines, parce que c'est la question qui se pose, c'est de savoir si vous avez des limitations dans les trois catégories de jouissance, d'usage ou d'abus de la propriété. Mais même dans ce que sert dans l'Ancien Régime, c'est qu'il y a une catégorie qui est une espèce d'extension du corps du roi, du second corps du roi, le corps éternel, dans les théories divines du corps, qui était le domaine de la couronne, qui était inaliénable. Et donc là, vous voyez qu'il y avait une restriction du droit de propriété, c'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de biens communs qui ne pouvaient pas faire l'objet même d'une jouissance en commun ou d'une, a fortiori, d'une aliénation. Donc, en France, la question qui se pose à un moment donné, c'est de savoir dans le commun, qu'est-ce qui est la personne collective qui est l'intermédiaire, qui est propriétaire du bien commun en question. Et là, à nouveau, la mise en perspective historique montre que le fait qu'il puisse y avoir des propriétés collectives, des personnes morales collectives, qui ne soient pas individualisées, est quelque chose qui est assez récent. Ça date à peine d'un siècle de vie en France. C'est tout le débat qui a eu lieu au moment de la naissance des sociétés anonymes. Et dans la question qui est très intéressante quand on s'intéresse justement à des formes intermédiaires entre la propriété publique et la propriété privée, le tiers secteur pour ne pas le nommer, donc tout ce qui relève du secteur associatif, la question qui se pose, qui a fait l'objet d'une très très grande genèse à l'échelle des décennies, c'est la personnalité morale des associations qui n'a été conquise que très très récemment et encore. Les associations 1901 en France n'ont qu'une personnalité faible, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas le droit de posséder des biens immobiliers autres que leur siège social ou des choses comme ça, elles n'ont pas le droit d'aller en justice, enfin c'est extrêmement restreint. Alors ça tient aux caractéristiques de l'histoire de notre pays, c'est toujours cette vieille méfiance de la monarchie absolue contre le pouvoir de l'Église, et donc l'obsession du pouvoir des congrégations et des fondations, qui fait que les associations qui pouvaient être des faunées de fondations ou de congrégations ont été, jusqu'à une date très récente,